Chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, bonjour à vous. La semaine dernière, notre navire, le Polar Stern, nous avait conduit jusqu'à l'extrême sud de la mer de Weddell, en Antarctique, et maintenant nous commençons notre remontée vers le nord, car la fin de la mission approche et surtout l'été se termine. En haute latitude polaire comme ici, la transition entre l'été et l'hiver est assez brutale, il n'y a pas vraiment d'automne, les jours raccourcissent vite et surtout le mauvais temps s'installe. Cette semaine, nous avons subi une succession de coups de vent avec tempête de neige à l'horizontale. Et heureusement, nous avons une équipe météo à bord. C'est le luxe, ils nous font une prévision chaque soir pour les deux jours à venir, comme à la télé. Et grâce à eux, on peut s'organiser pour travailler pendant les créneaux d'accalmie. Mais ça n'a pas été facile tous les jours. Hier, par exemple, une manip en hélicoptère sur la banquise a failli mal tourner à cause d'une aggravation météo brutale et imprévisible. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc hier tu volais.
Super beau. Hier je partais faire du coring, du carottage de glace pour l'équipe Ice. Et on s'est fait avoir, le vent s'est levé 35 nœuds. Et du coup on était dans le blowing snow, donc dans cette neige qui est soulevée sur le glacier, et on ne voyait plus rien, impossible de décoller. Donc c'est le bateau qui est venu à notre secours. Et on a fait un petit saut de la glace vers le bateau au dernier moment, quoi. Ouais. Dans ces conditions. On est resté 7 heures sur la glace, quoi.
Bah oui. Oui,
moi j'étais un peu froid. Mais après on était en sécurité, mais c'est vrai qu'on était content de voir que le bateau déroute, il annule un peu sa science pour venir nous chercher.
Et t'as fait du ski avec ton hélico?
Oui, alors comme on pouvait pas décoller, c'est-à-dire qu'on voyait sur 20 mètres de distance, et encore vous voyez, on percevait un repère au sol, mais sans repère au sol on pouvait vraiment pas décoller. Du coup on a démarré les moteurs, glissé sur nos patins pour rejoindre le bord de la banquise. Ouais. Et là, on pouvait voir le Polar Stern. Ouais. Donc on avait un repère. Donc on a pu sauter sur le pont pour ramener tout le monde.
Les météos nous ont promis une petite accalmie pour les jours qui viennent. Et donc nous en profitons pour faire un truc qui n'était pas prévu au programme initial. C'est le tour d'un gros iceberg de 60 km. Je m'explique. Début février, les images satellites nous indiquent qu'une plateforme glaciaire côtière commence à se fracturer pas loin de notre zone de travail. On surveille cela de près, toujours par les photos satellites, et vers le 20 février, on constate une rupture franche qui libère un énorme iceberg. Cet iceberg ensuite commence à s'éloigner doucement de la côte en laissant un chenal de quelques kilomètres large entre lui et la côte. Et comme ce chenal semble se stabiliser depuis les 15 derniers jours, nous avons proposé au commandant du Polar Stern d'aller y faire un tour, et, incroyable, il a accepté. Et ça n'avait rien d'évident a priori. En effet, il faut bien comprendre les enjeux. La calotte glaciaire couvrait cette zone maritime depuis très longtemps, des siècles peut-être, donc cette zone est totalement inconnue, notamment pour ses fonds sous-marins. Donc du point de vue du marin, c'est un sacré pari d'aller y mettre le nez de son bateau. Et d'un point de vue scientifique, l'intérêt est énorme. C'est l'occasion unique d'explorer ce qui se passe sous une plateforme glaciaire. Ça s'appelle un ice shelf en anglais, comme ma collègue norvégienne Eline va vous expliquer maintenant.
Bon, c'est surtout pour les biologistes et les gens qui sont intéressés par les fonds, parce que là, on est un peu, c'est comme si on étudiait le fond sous un ice shelf, sans avoir tous les problèmes de techniques pour s'y rendre. Donc c'est
oui, autrement, il faudra un sous-marin ou un robot sous-marin.
Ouais.
Alors que là, on peut y être avec le bateau parce qu'on est en eau libre.
Exactement. Voilà. Donc les biologistes et les gens qui travaillent avec les sédiments au fond, eux, ils sont tous ravis d'être ici.
On est entre l'iceberg et la côte, l'ice shelf.
On est à l'endroit où il faut être, il fait un super temps. Et on essaye de faire le tour avec le bateau pour que les scientifiques ils plongent tous leurs équipements dans cette partie qui était sous la glace, donc pour avoir plus d'infos. Et là, on vient de faire un vol de reconnaissance. Et il se trouve qu'on arriverait à faire le tour avec le Polar Stern de cet iceberg qui dérive 55 km de long.
Ouais, 55 de long, 30 de large. Et le canal, là, donc l'ouverture qui s'est créée actuellement, elle fait 3 nautiques.
Ouais, peut-être moins à l'endroit le plus serré.
Alors, au sud, deux, l'air fermé, il y avait un petit iceberg qui avait dérivé.
Ouais, ouais, c'est chouette qu'on puisse faire le tour.
Bon, c'est vrai que c'est une occasion unique, quoi. Suite au vol de reconnaissance effectué par l'hélico, donc, le Polar Stern s'est engagé dans le chenal et nous avons pu commencer nos manips scientifiques. On a prélevé des sédiments du fond avec un carottier, on a fait aussi des pompages, des prélèvements d'eau pour y analyser le plancton, et enfin, on a envoyé l'OFOS. L'OFOS, c'est l'engin sous-marin dont je vous ai parlé dans ma dernière chronique, et il sert à filmer le fond et les organismes qui y vivent. Lily, la biologiste qui pilote le FOSS, va maintenant nous en parler.
So, we're just exploring the gap between the iceberg and the ice shelf with the OFOPS. And what can be seen on the floor?
We see lots of dropstones, which then have lots of associated fauna on them, like brittle stars.
Ce qu'on voit sur le fond de ce chenal, ce sont d'abord des cailloux avec leur faune associée. Des vers, des gélatineux, des éponges et des holothuries. Notamment des concombres de mer roses avec des excroissances qui ressemblent à des oreilles.
And they have like extensions which look like ears.
Okay. So that means that there is still a bit of biological life on this floor.
Yes,
and this is as it was before the ice shelf cracked. So that means those animals were living at 600 meters depth below the ice, right?
Yes, that's what it seems like, because they couldn't establish in only 3 weeks. It's too short the time span, so they must have been here before.
All right.
There are also some quite big sponges.
Mm-hmm. Cette faune vit à 600 mètres de profondeur et elle est là depuis longtemps. Ce chenal existe seulement depuis 3 semaines. Tous ces individus sont beaucoup plus vieux, notamment les grosses éponges qui peuvent atteindre 100 ans. Ils sont donc représentatifs de la vie sous les plateformes glaciaires et c'est la première fois qu'on peut vraiment les filmer et découvrir ainsi que ce n'est pas un désert minéral sous la glace. Il y a aussi de la vie. On a vraiment beaucoup de chance d'être ici.
Comme le dit Lily, on a vraiment beaucoup de chance d'être ici, au bon endroit, au bon moment. Mais cette chance n'est pas due à la magie du hasard. Ce sont les technologies modernes qui nous le permettent. Tout d'abord, ce sont les images satellites qui nous ont fourni un suivi journalier de la formation de l'iceberg. Alors, elles proviennent d'un satellite allemand qui a été lancé très récemment, qui s'appelle Terra Saar. Ce satellite peut décrire l'état de surface de la glace avec une précision de 10 mètres. C'est incroyable. Et ceci, quelle que soit la couverture nuageuse, le jour ou la nuit, grâce à son radar micro-ondes, qui justement s'appelle le SAR, S-A-R, Side Aperture Radar. De même, les météorologues du bord utilisent des images satellitaires quotidiennes pour connaître avec précision les conditions atmosphériques de notre région, et faire tourner leur modèle de prévision météo. Et on a pu constater que pour la prévie à deux jours, dont dépendent entièrement nos conditions de travail en mer et sur la banquise, eh ben on peut dire que les météos ne se trompent pas beaucoup. Et enfin, pour que toutes ces informations soient disponibles à bord et en temps réel, et il faut que le Polar Stern soit équipé d'une connexion Internet costaud et efficace. Et là encore, ce sont les satellites qui le permettent, Iridium, Inmarsat, VSAT et d'autres. Et c'est d'ailleurs grâce à ces satellites de télécom que je peux vous envoyer ma petite chronique hebdomadaire depuis le fin fond de l'Antarctique. Voilà, voilà, à la semaine prochaine, chers auditeurs.
C'était Antarctique, carnet de bord d'un océanographe sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud.